Vous écoutez France Culture. Ça rime à quoi ? Ça rime à quoi avec, en ce premier jour de printemps, Pascal Quignard, qui sait les voix, l'aube et les renaissances. Pascal Quignard, alias Zétès, qui nous a reçus chez lui, un jour de février froid et solaire, pour nous parler de ce qui, elle, en nous, et bourgeonne au cœur de la poésie. Pascal Quignard, votre traduction de Lycophron, Lycophron d'Île obscure, dont l'Alexandra, qui n'est autre que Cassandre, passe pour une œuvre intraduisible, et qui est aussi le dernier poème tragique de la Grèce ancienne. Lycophron est né vers la fin du IVe siècle et a vécu à Alexandrie. Et c'est donc sa voix qui ressurgit et qui remonte en vous depuis tout ce temps, plus de 40 ans maintenant.
À vrai dire, ce livre, je n'aurais pas fait du tout. Je le dois à André Velter, parce que ce livre reprend en effet ce texte que j'ai traduit il y a plus de 40 ans, à la demande de Paul Celan, mais il s'y ajoute aussi un commentaire et les souvenirs du temps que j'évoque. Et je n'aurais pas pu faire ce livre. En fait, la seconde partie je pensais à noter ou corriger ma traduction. Je n'ai touché à rien. Elle est indéfendable et je l'aime infiniment. Je dis indéfendable parce que, mais elle était comme elle devait être à l'époque. Pour qu'on comprenne bien, en 68, en mars 68, j'étais à Nanterre, un étudiant de philosophie à Nanterre, et donc participant au mouvement d'alors, et ensuite il y a eu ces grandes grèves, et j'ai rejoint, comme beaucoup, alors l'idée de transmettre et d'enseigner s'est effacée en moi d'un coup, et donc je me suis retourné à Osny, où j'ai repris l'orgue de la famille. Et j'ai traduit, parce qu'à l'époque, il y avait un ministre général de Gaulle qui s'appelait Georges Pompidou, qui avait fait une anthologie de la poésie française, où il massacrait particulièrement un poète, Maurice Sèvres, en disant que c'était illisible, obscur, aussi obscur que Lycophron. J'ai adressé durant l'été aux éditions Gallimard cet essai sur Maurice Sèvres, qui a été lu par chance pour moi par Louis-René Desforêts, qui a aussitôt publié un chapitre dans la revue L'Éphémère. Paul Celan l'a lu, André Duboucher l'a lu, et ils m'ont demandé, dans ce cas-là, Paul Celan, si vous voulez, à l'époque, je ne sais pas comment on dit, j'étais lecteur ou répétiteur à l'école normale supérieure. De ce fait, il avait lu des lettres de Mallarmé, dans lesquelles il citait un poète du 19e, Calixte Racher, qui avait tenté de traduire Lycophron. Et Paul Celan voulait que je regarde, donc dans ce cas-là, si je pouvais traduire Lycophron. Publié certains. Ça a été choisi ensuite dans ce que j'avais fait par André Duboucher, c'est paru dans L'Éphémère. Donc, si vous voulez, c'était passé de l'auteur le plus obscur de la langue française, donc mon premier livre, à l'auteur le plus obscur de l'Antiquité. C'est pour vous expliquer un peu l'arrière-fond de cette publication. Dans L'Éphémère, donc, en 68 et en 70, le livre a été beaucoup aimé par Henri Michaud, et puis brusquement, Paul Celan, qui était surtout le poète magnifique et un des plus difficiles du XXe siècle, s'est jeté à l'eau. Et de ce fait, la revue L'Éphémère s'est arrêtée. Et moi, si vous voulez, c'est le hasard, je me suis retrouvé devant partir à l'armée. Et j'ai raconté à Saint-Germain-en-Laye, j'ai raconté ça dans un roman qui s'appelle « Les salons de Wurtemberg ». Donc, si vous voulez, ce livre-là, grâce à André Velter, c'est les trois années 68, 69, 70 qui précèdent ce roman « Salon de Wurtemberg ».
Les premiers mots d'Alexandra sont « je dirais », un futur sûr et presque prophétique, et qui cependant vient se heurter très vite au « hélas » qui lance le monologue de Cassandre, ou Alexandra, selon comment on l'appelle. Cette impossibilité à dire rappelle singulièrement, Pascal Quignard, cette première phrase de votre dernier livre, du dernier royaume, La barque silencieuse, qui débute ainsi. J'aurais passé ma vie à chercher des mots qui me faisaient défaut. On a réellement plus que le sentiment, la certitude que toute votre œuvre, que ce soit Le nom sur le bout de la langue, aujourd'hui celui qu'au front retraduit et cependant dont nous parlerons ensuite Zétès, tout est dans cette difficulté à dire et malgré tout cette réussite.
Ah, c'est très juste et très profond ce que vous dites. Je ne l'avais pas pensé sous ce jour. Le premier mot de la tragédie, c'est en effet l'exo, je dirais. C'est le garde de Cassandre qui le dit. Et puis le premier mot de Cassandre, c'est aïe aïe, hélas, qu'elle prononce comme cela. Or, avec ce que vous dites, avec ce que vous venez de dire, c'est un peu finalement la situation toute simple que connaît chacun d'entre nous, qui est celle de la naissance. C'est la détresse originaire de la naissance, où, à vrai dire, le premier cri que l'on pousse est fonctionnel. C'est celui qui déclenche la pulmonation, qui nous permet de respirer, qui nous permet d'atteindre le souffle, même si nous avons vécu avant sous forme d'audition, mais nous n'avons pas vécu sous la forme du souffle. Donc ce premier cri, et curieusement, il aile par derrière la possibilité d'être entendu comme un appel par ceux qui nous entourent, sans quoi, bien sûr, nous péririons de froid, de faim, de solitude, si la voix n'arrivait pas à frapper l'air. Et dans ce sens-là, il est possible qu'on ait là la fonction même, appelante, invocative, un peu étrange, extasiée et de détresse, propre à la poésie.
Et pour vous, Pascal Quignard, cet appel-là, cette invocation est nécessairement poétique, elle passe d'abord par la traduction, puis par les fragments, par cette façon de morceler la langue et de réussir à la dire autrement, à la dire plus brièvement et plus justement encore, parce que passer du grec à ce français-là d'aujourd'hui, bien que traduit il y a plus de 40 ans, c'était un sacré défi pour le jeune homme que vous étiez alors.
Ah,
dire l'obscur.
C'était un défi, mais enfin, j'étais à moi-même, je suis demeuré. Je vous rassure, à moi-même très obscur, très opaque. Donc ce déchiffrage était destinal, je ne sais pas comment il faut. Ça a été une même peut-être la seule fois où j'ai eu la sensation d'être dans une tâche qui avait une fin, Dieu merci, mais qui a été très longue, dans laquelle je pouvais m'enfouir et, en m'aidant en plus une traduction latine, dans ma langue, dans la langue directement qui précède la mienne, qui est le latin, et dans la langue qui précède le grec. Donc une espèce de façon de naître par l'écrit à la possibilité de dire ce qu'on éprouve. Alors quand on est très 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 angoissé comme je l'étais, il m'était très difficile de découvrir les raisons de cette angoisse, les raisons de ce qui me serrait tellement, tellement la gorge. C'est ce qui me pousse à parler du texte suivant, c'est que précisément après, quand je suis rentré de l'armée, donc, j'avais tellement été passionné par cette traduction demandée par un homme, un très grand poète, qui lui-même s'était jeté dans l'eau du pont Mirabeau, enfin on ne sait pas au juste de quel pont il s'est jeté dans la Seine, que cela s'est poursuivi à moi, en effet, cet appel. Si vous voulez, comme je n'ai pas fait, il y a un livre de poésie que j'ai fait, un seul, qui s'appelait Interarias Phagos, et qui est un poème latin. Le seul poème que j'ai vraiment écrit moi-même, c'est un poème en latin. Mais je ne suis pas retourné, je n'ai jamais eu l'audace de retourner directement à la poésie, et à cette, peut-être parce que j'avais commencé par le plus grand poète français qui était Sève, et ensuite par le plus extrême poème qui est cette Cassandre de Lycophron, qui est un texte à plusieurs degrés obscur. C'est un texte, j'en parle un tout petit peu là pour bien comprendre son obscurité. C'est une apocalypse, c'est un genre égyptien. Toute l'histoire de la Grèce a eu lieu, mais elle est racontée au futur. C'est donc déjà une très étrange. Elle est ramassée sous forme mantique, donc la plus énigmatique possible, comme si la chamane Cassandre qui la proférait, avant de tomber en extase, pouvait vivre ce qui allait se produire, toute la destruction de la Grèce, que de la façon la plus énigmatique. Vous voyez la double contrainte de difficulté que s'était donnée Lycophron. J'ai lu beaucoup de choses, et depuis 40 ans aussi, sur Lycophron, dont un admirable livre de Barbara Cassin, qui, comme moi, a beaucoup étudié les sophistes, et qui est une amie que je révère tout à fait. Mais j'avoue que l'idée qui a pris un bibliothécaire d'Alexandrie de rédiger la dernière tragédie de la Grèce antique sous cette forme, quel est exactement son motif, ça demeure pour moi un vertige. Je n'arrive pas à concentrer mon attention sur qu'est-ce qui a poussé Lycophron à se glisser dans la voie chamanique de Cassandre.
Alors, quelle est l'histoire de Cassandre, cette Alexandra que l'on voit sur la couverture, nue, avec un sein pointant chacun dans une direction opposée. Elle est très souvent sur les céramiques grecques, celle que l'on reconnaît à sa chevelure tout à fait dépeignée. Vous la préférez sous le nom d'Alexandra ou de Cassandre,
Elle est dépeignée, c'est le signe simplement du viol. Et dès que l'on voit une figure pensive, malheureuse, dépeignée et nue, on sait que c'est Cassandre qui est là. Alors, pourquoi Cassandra, c'est le nom de Cassandre, et son frère s'appelle Paris. Et c'est les débuts de l'histoire terrible de la Grèce et de la guerre de Troie viennent de Paris enlevant Hélène. Mais dans ce cas, il change de nom, Paris, et il devient Alexandre. Et dans ce cas-là, sa sœur, si intimement liée au destin de son frère, prend le nom d'Alexandra. Alexandra se décompose en grec comme celle qui repousse les hommes. Et elle repousse en effet Apollon, Ajax et Agamemnon. Les trois viols qu'elle subit sont en repoussant ce qui s'approche d'elle.
Et ces 1476 vers grecs qui ont inspiré de nombreux poètes comme Sève, Gongora, Mallarmé, Célan, que vous citiez, Pascal Quignard et même Paul Auster, ces vers-là, vous les avez traduits selon votre habitude, Pascal Quignard, avec des dictionnaires partout autour et en traquant chaque fois l'étymologie pour repartir du plus loin et du plus vrai possible, de l'essence même
du poème. Sophie, non, je vous reprendrai juste sur le mot le plus vrai. Il y a beaucoup de philosophes même et de personnes et de philologues qui estiment que l'étymologie est une possibilité de trouver la véritable racine des mots et que l'on peut s'appuyer sur elle pour penser le langage. Moi pas du tout. L'étymologie pour moi c'est la possibilité de troubler. Là je suis profondément un littéraire et pas un philosophe. De troubler le langage pour le laisser vaciller sur lui-même, de laisser s'ouvrir dans chaque mot le gouffre de son origine, sans dire quelle elle est, parce qu'on sait rarement les origines, et on ne percevra jamais les premières langues, de toute façon, les proto-langues, donc ça serait absurde de prétendre à l'étymologie des langues que nous parlons. Et donc c'est plus l'effet de trouble, l'effet de sauvagerie, l'effet de mettre dans notre langue toujours la langue de l'ascendant. Il est possible que ma propre petite histoire personnelle qui m'a voué à des difficultés de langage quand j'étais très, très petit et me contraignant à réapprendre ma langue, j'ai besoin éternellement de réapprendre ma langue pour essayer de rendre chaque mot un peu vivant, un peu plus sauvage, un peu plus troublé, mais pas forcément un peu plus vrai.
Vous nous liriez, Pascal Quignard, le début de ce Lycophron sous les traits d'Alexandra?
Je dirais, c'est sans détour que je dirais toute chose sur quoi tu m'interroges, je dirais cela depuis l'origine et d'est-ce qui culmine. Si la parole se fait longueur, pardon, maître, car non pas calme ni lente la fille aux réponses divines, elle ne desserra pas comme jadis les lèvres et d'élabore, vouée d'équivoque, palpitante, elle cria au contraire. Elle épanchait un cri qui confond et à quoi tout se mêle, cri improférable, de sa gorge brilla, mâcheuse de laurier, surgissait un langage, mimant si près la voix sonore, répétant la voix dont la question étreint, celle d'un sphinx assombrissant.
Ce livre a pour pendant Zétès, et l'on voit le double volet dès le titre, Lycophron et Zétès, un double titre en fait, mais ce ne sont pas deux titres distincts, mais deux auteurs distincts. Alors pour ce qui est de Lycophron, on commence à percevoir cet obscur antique-là, mais pour ce qui est de Zétès, de qui s'agit-il alors ?
Après que de retour de l'armée, travaillant à d'autres, l'université de Vincennes, enfin je vais pas raconter ma vie, mais par moments, les voix de Lycophron, si j'ose dire, ce ton très emporté, très impérieux, qui peut me gêner aussi par sa propre violence, par sa sexualité très 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 grande, sont revenus. Et j'étais pas complètement fou, j'éteignais ces voix le plus souvent, et parfois je les notais cependant, parce que je n'ai jamais trouvé meilleur système pour vivre que de me débarrasser dans les cris de tout ce qui me perturbait. Et à trois reprises, en tout cas j'ai retrouvé trois, je les ai publiés donc sous un pseudonyme qui était celui de Zétès, qui veut dire « je cherche », simplement en grec, ce n'est pas... Peu l'ont reconnu comme mien, ils croyaient bien sûr que j'avais encore trouvé un texte antique invraisemblable et que je le traduisais. Deux, en tout cas, n'ont pas... Emmanuel Lecard trouvait ça beaucoup trop choquant même, au niveau de la sexualité. Il m'y avait reconnu, et Roger Caillois m'avait reconnu aussitôt. Et lui était très intéressé, par ces genres égyptiens, c'était le genre de l'apocalypse, donc de la prophétie au futur, mais aussi d'un autre genre. Malheureusement, la mort l'a pris d'un seul coup, parce qu'il voulait que nous composions des confessions négatives. Les anciens égyptiens avaient inventé de rapporter leur vie, non pas en disant les fautes qu'ils avaient commises, mais uniquement toutes les fautes qu'ils n'avaient pas commises. Et il trouvait ce genre-là ahurissant, et il trouvait dommage qu'on ait laissé tomber en déshérence. Et donc je me suis interrogé dans cette seconde partie intitulée de ces thèses sur ce... Profondément, il m'est difficile d'en parler, mais profondément, je n'ai jamais éprouvé en moi-même que j'avais une très forte identité. Et profondément, bon, je ne me suis jamais senti écrivain, mais encore moins, en tout cas, encore moins traducteur, je me suis toujours senti profondément lecteur, si vous voulez. L'extrême passivité, le fait d'être débordé dans la langue d'un autre, de même qu'un petit enfant, d'ailleurs, est débordé dans la langue des siens, est d'expérience pour moi fondamentale. Donc j'essaie, dans cette partie de Zétès, de comprendre cette incroyable appel qui, pas seulement chez les hommes, qui fait comme ça que quelque chose peut être ailé dans l'univers. Si vous prenez l'aube, par exemple, moi qui me lève très tôt, et que vous voyez ces concours relayés d'oiseau en oiseau, de cri en cri, de chat en... Le vacarme, que quand je parle de ça parce qu'il fait tellement mauvais, c'est tellement l'hiver que j'ai hâte qu'on soit au printemps, que ça recommence. Le vacarme tonitruant vers 5 ou 6 heures du matin, qui ensuite s'apaise peu à peu dans le jour. Il y a là quelque chose, bien sûr, c'est pas le coq qui appelle le soleil dans le ciel, mais le soleil dans le ciel appelle quelque chose quand même peut-être dans le chant du coq qu'il déclenche. Et il y a là donc toute une sur les bords de Lyon où je vis, je l'ai fait vérifier par un professeur de sciences naturelles parce que je n'y croyais pas. Il y a beaucoup de cygnes et de canards colverts. Bon, il y avait une petite canne colvert toute brune. Et j'ai cru que, les œufs qu'elle couvait émettaient des sons. Je ne sais pas, c'est possible. Je me suis renseigné, c'est vrai. Qu'avant même d'éclore, dans les œufs, quelque chose dans les petits canetons, dans les poussins, appelle déjà. Et leur mère, plus ou moins en les couvant, répond à ce murmure. Je ne sais pas, vous allez dire que je suis complètement fou en parlant des canards colverts du bord de Lyon, mais je parle donc de quelque chose qui en nous est reçu ensuite dans sa puissance d'appel par ceux qui les écoutent, et qui peut-être donc est là au cœur de la poésie, et qui fait que celui, un homme comme moi, peut être à la merci, en effet, de voix reçue de ce qu'il a lu ou de ce qu'il a cherché. D'où le mot de Tzétès.
D'autant que Tzétès, c'est le compagnon de navire, de Boutès, cet argonaute qui, lui, n'a pas craint de sauter à leur corfée et rester enchaîné pour ne pas succomber au charme des sirènes, et auquel, Pascal Quignard, vous avez également consacré un essai, un texte. Boutès et Tzétès, la fraternité est là. Surtout poétique.
Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Et je n'aurais pas fait un Tzétès après Boutès chez Michel Delorme. C'est parce que cette possibilité de Lycophron revenant, j'ai pu faire revenir ce revenant aussi qui était Tzétès, qui était un revenant de Lycophron. Mais surtout, dans ce que vous dites, c'est que là, on voit combien la différence entre la musique et la poésie. La musique est vraiment ce qui veut nous faire revenir à l'audition du premier monde. Et profondément, en parlant précisément de l'aube, je parle de la naissance aussi, la poésie est du second monde. Elle est même le déclenchement du second monde.
Ce livre, Pascal Quignard, vous place parmi les poètes, aux côtés d'André Duboucher ou encore Paul Celan, dont vous parlez comme jamais dans ce Tzétès. Paul Celan vous relie aussi beaucoup à cette thématique profonde de la voix perdue. C'était Paul Celan qui disait cette chose très belle, alors que tous ne cessaient de répéter qu'il écrivait dans la langue de ses propres bourreaux. Il aurait dit « Je n'écris pas dans la langue de mes bourreaux, j'écris dans la langue qu'aimait ma mère. Oui. » Plus simplement et plus profondément. Vous nous parleriez un peu de ce Paul Celan-là qui, dans votre bouche et dans ses vers, donc dans ses fragments de Tzétès, est offert au public sous un jour que très souvent on ignore, on ne voit que le côté sombre de Paul Celan.
Oh, mais il était sombre. Malheureusement, si vous voulez, il y a, bien sûr, je vais vous répondre, mais il y a dans ce que je vivais alors, quelque chose qui était tellement angoissé que je ne peux même pas dire que j'ai connu aucune des personnes que j'ai connues alors.
Vous avez sonné à la porte et ils vous ont ouvert.
Oui, ça, ils ont tous été très généreux avec moi.
C'est ce que dit Tzétès.
Oui, ils ont été très, très généreux avec moi. Mais j'étais tellement confisqué par la peur que tout se passe bien, que je pourrais dire trois mots, que je pourrais avaler une bouchée, que de me retrouver comme ça. J'ai été accueilli magnifiquement par André Duboucher toutes les semaines. J'allais dîner dans son atelier rue des Grands Augustins. Mais il était fait pour un tout autre mode de vie qu'il a pu obtenir ensuite. Il était fait pour la montagne, il était fait pour être seul, il était fait pour... Mais ça ne retire pas sa générosité, son attention extrêmement grande. Je pense qu'il a été... Je pense que, pour parler vraiment, dans mon souvenir en tout cas, il y a eu une véritable joie pour André Duboucher avec la revue L'Éphémère. Et je pense que la mort de Celan l'a arrêté, cette revue. C'était Celan qui a fait traduire Duboucher, qui a fait traduire L'Hurler des forêts, qui a fait traduire. C'était vraiment le cœur de la revue, c'était Paul Celan.
Vous nous liriez cette page, Pascal Quignard, qui en parle?
Non, je ne vais pas lire ce passage-là, parce que... Avec tous les noms de Celan, il y a des choses qu'il faut laisser à l'écrit. La plupart d'ailleurs des choses que j'écris, je préfère les laisser à l'écrit que de les lire. Je rappellerai simplement un mot très cruel d'un autre homme qui s'est jeté du haut de l'escalier, qui s'appelait Primo Levi, disant qu'on n'avait pas le droit de ne pas transmettre par rapport à la poésie de Celan, et que dans ce cas-là, on n'avait pas le droit de lancer des bouteilles fermées. Et c'est faux, parce qu'en effet, Celan a pris le mot Celan français pour ce pseudonyme pour s'appeler lui-même, afin de se celer. Mais il y a dans l'appel celé, dans la cryptographie, si j'ose dire, d'où le titre de paronomase, il y a dans le fait de rendre l'abord extrêmement difficile quelque chose qui appartient à la nature elle-même, de toute façon, et qui fait que ce qui ne bourgeonne pas en ce moment est sous terre et se crypte avant de pouvoir se déployer, et qui fait que l'étude elle-même, que la valeur la plus grande, bien plus importante que la transmission, elle est au cœur de la poésie, et c'est Céline qui la défend.
Dieu merci, on peut se taire, on peut serrer les poings, on peut enfouir son visage dans l'ombre, on peut enfouir sa vie dans l'ombre. Ce sont quatre vers qui sont à la presque toute fin de Zétès, Pascal Quignard. Si l'on réfléchit à cette écriture par fragments qui vous vient de Lycophron, qui vous vient de la Grèce antique, et que vous a inspiré le grec mais aussi le latin, on se dit que vos livres tels que Les Petits Traités ou toute l'aventure un peu folle et encore non finie du Dernier Royaume vous ramènent aussi bel et bien à la poésie. Il n'y a pas que Zétès qui est poète, finalement.
Ah, j'aimerais bien que vous ayez raison. J'ai toujours eu une gêne. Dans les bifurcations que prend la vie pour les possibilités, par exemple, la tristesse de ne pas être musicien.
Mais vous l'êtes ?
Peut-être, je ne sais pas. Comment vous exprimez ça ? Il est important pour moi de ne pas... de ce qui compte le plus pour, à mes yeux, ne soit un rôle, ne soit une fonction, ne soit une identité. Et vous parlez de ce projet dans lequel je mourrais, qui s'appelle Dernier Royaume, il faut bien, et qui est en effet est fait de fragments qui se succèdent, la seule règle étant que chaque chapitre qui se suive soit le plus surprenant par rapport à celui qui précède, donc l'obligation est très particulière, parce que ça n'a pas de fin, et ça n'a pas de genre, de ce fait. Et c'est comme le sentiment que les psychanalystes appellent océanique, c'est quelque chose qui est incontrôlable. C'est quelque chose où je ne peux pas prétendre avoir une fonction, être poète ou être musicien ou être philologue ou philosophe. Ou rien, rien n'est possible, il ne se tient, je mourrai dedans, c'est comme un océan. Vous voyez ce que je recherche le plus par rapport à... Je pense que nos sociétés, qui sont des sociétés d'identité, sont des choses que je déteste le plus. L'absence d'identité, qui fait le fond de l'étude, qui fait le fond de la lecture, de pouvoir, comment dire, s'identifier à n'importe qui, à n'importe quel siècle, au IVe siècle de Lycophron, est le cœur de nous-mêmes. Le cœur de nous-mêmes est vide et c'est le plus intense au fond de nous.
Zétès, celui qui cherche. Où est le manuscrit de Zétès, toujours sur ces feuilles volantes d'écolier, Pascal Quignard, qui vous sont chers à petits carreaux comme les enfants, ou bien brûlés avec les autres manuscrits
vous les voyez,
une fois qu'ils sont
vous
publiés.
Vous les voyez toutes derrière vous depuis 42 ans, rangés dans ces petits classeurs. Je n'aurais jamais su faire la moindre différence entre lire et écrire. J'ai toujours une feuille à petits carreaux glissée dans la page du livre que je lis, dans le train ou à l'hôtel ou chez moi. Et je note comme ça ce qui survient, qui se rapporte parfois au livre directement. Je recopie, c'est le cut-up, c'est ce que les anciens appelaient exceptio. Et sans ça, c'est ce que m'inspire la page que je lis. Donc ça peut n'avoir strictement rien à voir, je veux dire, avec le livre que je lis.
Et en même temps, cette habitude d'écrire sur des feuilles volantes vous rapproche sacrément de la poésie. N'avoir jamais écrit que sur des feuilles que l'on peut garder, que l'on peut éparpiller, non pas d'un seul tenant, mais toujours par fragments, et une chose qu'il faut recomposer ensuite.
Ah oui, je n'avais pas pensé à ça, et le fait que je n'ai jamais écrit sur une table. Sauf la traduction, parce qu'il fallait des dictionnaires.
Lycophron et Zétès, traduction et poème de Pascal Quignard, viennent de paraître en Poésie Gallimard. Chose extraordinaire à dire, j'éprouve le désir d'écrire sans savoir à qui ni de quoi, disait Pétrarque par la voix de Pascal Quignard. Retrouvez-les sur le www.franceculture.com. Ça rime à quoi ? Marie-Thérèse Ferrand, Christophe Michou, Anne-Catherine Lochard, Patrick Molinier, Sophie Nolot. Dans un instant, sur France Culture, c'est Aline Paillé, Jusqu'à la Lune et retour.